La nouvelle maison, blanche comme une colombe, fut inaugurée par un bal. L'idée en était venue à Ursula depuis cet après-midi où elle s'aperçut que Rebecca et Amaranta étaient devenues des adolescentes et, sans trop exagérer, on pourrait dire que ce qui l'incita principalement à faire construire fut le désir de procurer aux jeunes filles un endroit convenable où recevoir. Pour que rien ne vînt déparer l'éclatante beauté de son projet, elle travailla comme un forçat tandis que s'effectuaient les réaménagements, si bien qu'avant même la fin des travaux, elle avait commandé un tas d'ustensiles et d'éléments décoratifs fort coûteux, dont cette admirable invention qui devait susciter l'émerveillement du village et la joie de tous les jeunes, le piano mécanique. On l'apporta en pièces détachées dans plusieurs caisses, qui furent livrées en même temps que les meubles viennois, les cristaux de Bohême, la vaisselle de la Compagnie des Indes, les nappes de Hollande et une riche variété de lampes et de chandeliers, de vases, d'ornements et de tapis. La société importatrice lui envoya pour son compte un spécialiste italien, Pietro Crespi, chargé de remonter et d'accorder le piano mécanique, d'en enseigner le mode d'emploi aux clients et de leur apprendre à danser sur les airs à la mode dont il y avait six rouleaux. Pietro Crespi était un jeune homme blond, le plus beau et le mieux élevé qu'on eût jamais rencontré à Macondo, si soigné dans sa mise qu'en dépit de la chaleur suffocante, il travaillait en chemise de brocart et sans quitter sa lourde cape de drap sombre. Dégouttant de sueur, demeurant à distance respectueuse des maîtres de maison, il s'enferma plusieurs semaines au salon, aussi absorbé qu'Aureliano dans son atelier d'orfèvrerie. Un matin, sans ouvrir la porte ni convoquer aucun témoin pour le miracle, il plaça le premier rouleau sur le piano mécanique. Le martelage obsédant et l'incessante cacophonie des tringles cessèrent comme par surprise et au silence succédèrent harmonieuses et limpides les notes de musique. Tout le monde se précipita au salon. José Arcadio Buendía parut médusé, non pas à cause de la beauté de la mélodie, mais par ce pianotement autonome de l'instrument, et il planta au salon l'appareil de prise de vue de Melquiades dans l'espoir d'obtenir le daguerréotype de l'exécutant invisible. Ce jour-là, l'Italien partagea leur repas. Rebecca et Amaranta, qui servaient, furent intimidés par l'adresse et l'élégance avec lesquelles se servait des couverts cet homme angélique, aux mains pâles et dépourvu de bagues. Dans la salle commune contiguë au salon de réception, Pietro Crespi leur apprit à danser. Il leur indiquait les pas à distance, marquant le rythme à l'aide d'un métronome, sous l'aimable surveillance d'Ursula, qui ne quitta pas la pièce un seul instant tout le temps que ses filles reçurent des leçons. En ces occasions, Pietro Crespi portait des pantalons spéciaux, très moulants et élastiques, ainsi que des chaussons de danse. « Tu n'as pas raison de t'en faire, » disait José Arcadio Buendía à sa femme. « Cet homme n'est qu'une tapette !» Mais elle ne relâcha pas sa surveillance tant que dura l'apprentissage et jusqu'à ce que l'Italien eût quitté Macondo. Alors commencèrent les préparatifs de la fête. Ursula dressa une liste d'invités triés sur le volet, ne retenant que les seuls descendants des fondateurs de Macondo, exception faite de la famille de Pilar Ternera, laquelle avait déjà eu deux autres fils de pères inconnus. C'était en réalité un choix de caste, où n'intervenaient que les questions d'amitié, car les heureux élus se composaient non seulement des plus anciens et proches voisins de José Arcadio Buendía avant que ne commençât l'exode qui devait aboutir à la fondation de Macondo, mais également de leurs enfants et petits-enfants qui étaient les compagnons habituels d'Aureliano et d'Arcadio depuis leur plus jeune âge et de leurs filles qui étaient les seules à venir à la maison pour broder avec Rebecca et Amaranta. Gouverneur des Bonaires, uniquement préoccupé de subvenir avec ses maigres ressources à l'entretien de deux policiers armés de bâtons, Don Apollinare Moscoté, en fait d'autorité, n'était qu'une potiche. Pour parer aux dépenses de la maisonnée, ses filles ouvrirent un atelier de couture où elles confectionnaient tout aussi bien des fleurs en feutrine, de la confiture de goyave et des billets doux sur commande. Mais bien qu'elle fût sage, dévouée, les plus jolies filles du village et les mieux au courant des danses nouvelles, elles ne réussirent pas à compter parmi les invités à la fête. Tandis qu'Ursula et les jeunes filles déballaient les meubles, faisaient briller l'argenterie et suspendaient au mur des tableaux où l'on voyait des jouvencelles dans des barques pleines de roses, insufflant ainsi une vie nouvelle aux espaces vides édifiés par les maçons, José Arcadio Buendía renonça à pourchasser l'image de Dieu, convaincu de son inexistence, et entreprit d'ouvrir et de décarcasser le piano mécanique afin de percer les secrets de sa magie. Deux jours avant la fête, Bien embarrassé de se retrouver avec un tas de marteaux et de goupilles en trop, emmêlé de la tête aux pieds dans un écheveau de cordes qui s'enroulait à un bout quand il les déroulait à l'autre, il acheva de détraquer complètement l'instrument. Jamais il n'eut autant d'émoi, de péripéties, d'allées et venues qu'en ces journées, mais les nouvelles lampes à pétrole s'allumèrent à la date et à l'heure prévue. La maison ouvrit ses portes, encore pleine d'odeurs de résine et de chaux humides, et les fils et petits-fils des fondateurs de Macondo purent découvrir la véranda aux fougères et aux bégonias, les chambres silencieuses, le jardin saturé du parfum des roses, avant de se réunir au salon devant l'invention mystérieuse qu'on avait recouverte d'un drap blanc. Ceux qui avaient déjà vu de vrais pianos, assez répandus dans les autres villages autour du Marigot, ressentirent un peu de déception, mais plus amère fut la désillusion d'Ursula quand elle plaça le premier rouleau afin qu'Amaranta et Rebecca ouvrissent le bal et que la mécanique ne voulut pas fonctionner. Melquiades, déjà presque aveugle, tombant en miettes à force de décrépitude, fit appel aux ressources de son très ancien savoir pour essayer de la réparer. Enfin, José Arcadio Buendía réussit à bouger par erreur quelques dispositifs enfouis et la musique se mit à sortir. D'abord à gros bouillon, puis en une cascade de notes à l'envers. Frappant contre les cordes disposées sans dessus-dessous et témérairement accordées, les petits marteaux se démantibulèrent. Mais les opiniâtres descendants des 21 pionniers intrépides qui avaient éventré la Sierra en se frayant par l'ouest un chemin vers la mer éludèrent les écueils consécutifs à ce renversement de l'ordre mélodique et le bal se prolongea jusqu'à l'aube. Pietro Crespi revint arranger le piano mécanique. Rebecca et Amaranta l'aidèrent à remettre de l'ordre parmi les cordes et partagèrent son hilarité à propos des valses interprétées à l'envers. Il était extrêmement affable et d'un fond si honnête qu'Ursula renonça à sa surveillance. La veille de son départ, grâce au piano mécanique réparé, on improvisa un bal d'adieu et il fit avec Rebecca une démonstration de danse moderne digne de virtuoses vertueux. Arcadio et Amaranta les égalèrent en grâce et légèreté. Mais la représentation fut interrompue par Pilar Ternera, qui se trouvait à la porte avec les curieux et qui, mordant, tirant les cheveux, se battit avec une autre femme qui avait osé dire que le jeune Arcadio avait des fesses de femme. Vers minuit, Pietro Crespi prit congé en faisant un petit discours émouvant et promit de revenir très bientôt. Rebecca le conduisit jusqu'à la porte. Et, après avoir fermé la maison et éteint toutes les lampes, se retira dans sa chambre pour pleurer. Ce chagrin inconsolable et qui se prolongea plusieurs jours, Amaranta elle-même n'en connut pas la cause. Son hermétisme n'avait rien d'étrange. Bien qu'elle parût volontiers expansive et cordiale, son caractère était taciturne et son cœur impénétrable. C'était une splendide adolescente, longue et bien charpentée, mais elle s'entêtait à se servir du petit fauteuil à bascule en bois qu'elle avait apporté lors de son arrivée à la maison, renforcé à de nombreuses reprises et dont on avait supprimé les accoudoirs. Nul ne s'était encore aperçu qu'à son âge, elle avait conservé l'habitude de s'enfermer dans les bains et ne s'endormait plus que le visage tourné du côté du mur. Les après-midi où il pleuvait, tandis qu'elle brodait en compagnie d'un petit groupe d'amis sous la véranda fleurie de Bégonia, il lui arrivait de perdre le fil de la conversation, et une larme de nostalgie roulait jusqu'à lui saler le palais, à la vue des couches vénelées de terre humide et des monticules de boue qu'édifiaient les vers au jardin. Ses goûts cachés, vaincus en d'autres temps par le mélange d'orange et de rhubarbe, rallumèrent un appétit impossible à contenir lorsqu'elle se mit à pleurer. Elle remangea de la terre. La première fois, ce fut presque par curiosité qu'elle s'y remit, persuadée que le dégoût qu'elle éprouverait serait le meilleur remède contre la tentation. Et de fait, elle ne put supporter de garder la terre dans sa bouche. Mais elle insista, vaincue par un désir croissant, et peu à peu retrouva l'appétit ancestral, le goût des minéraux primaires, cette satisfaction sans faille que procurait l'aliment originel. Elle glissait des poignées de terre dans ses poches et les mangeait par petits grains sans se faire remarquer, remplie de bonheur et de rage à la fois, tandis qu'elle enseignait à ses amis les points de broderie les plus difficiles et parlait des autres hommes qui ne méritaient pas qu'on poussât le sacrifice jusqu'à avaler pour eux la chaux des murs. Les poignées de terre rendaient moins lointain et plus réel le seul homme qui méritait pareil avilissement, comme si cette terre qu'il foulait de ses fines bottes vernies en quelque autre endroit du monde transmettait jusqu'à elle la densité et la chaleur de son sang, par cette saveur minérale qui lui laissait un goût de cendre dans la bouche et déposait un sédiment de paix au fond de son cœur. Un après-midi, sans fournir aucun motif, Amparo Moscote demanda la permission de venir voir la maison. Amaranta et Rebecca, déconcertées par cette visite impromptue, la reçurent froidement. Elles lui montrèrent la demeure telle qu'elle avait été réaménagée, lui firent entendre les rouleaux du piano mécanique et lui proposèrent de l'orangeade accompagnée de gâteaux secs. Amparo fut un modèle de dignité, de charme personnel et de bonne manière. Et Ursula, dans les courts instants où elle put prendre part à la visite, en fut impressionnée. Au bout de 2 heures, alors que la conversation commençait à languir, Amparo profita d'un moment d'inattention d'Amaranta pour remettre une lettre à Rebecca. Celle-ci eut le temps de lire le nom de la très distinguée demoiselle Donna Rebecca Buendía, rédigée de la même écriture appliquée, avec la même encre verte, la même disposition précieuse des mots que le mode d'emploi du piano mécanique, et plia la lettre du bout des doigts avant de la glisser dans son corsage, regardant Amparo Moscote avec une expression d'éternelle et inconditionnelle gratitude et la promesse tacite d'une complicité qui durerait jusqu'à la mort. La soudaine amitié entre Amparo Moscote et Rebecca Buendía ranima les espoirs d'Aureliano. Le souvenir de la petite Remedios n'avait cessé de le tourmenter, mais il ne trouvait pas moyen de la revoir. Lorsqu'il se promenait dans le village avec ses meilleurs amis, Magnifico Bisbal et Guérinaldo Marquez, fils des pionniers de même nom, il cherchait anxieusement à l'entrevoir dans l'atelier de couture, mais n'apercevait que ses sœurs aînées. La présence d'Amparo Moscote dans la maison fut pour lui une sorte de prémonition. « Il faut qu'elle vienne avec elle », se dit Aureliano en lui-même. « Elle doit venir à tout prix. » Il se le répéta si souvent et avec tant de conviction qu'un après-midi, dans son atelier, où il était en train de dorer un petit poisson, il eut la certitude qu'elle avait répondu à son appel. Peu après, effectivement, il entendit la petite voix enfantine et, levant les yeux, le cœur glacé d'effroi, il vit la fillette sur le pas de la porte, dans une robe d'organdi rose et chaussée de bottines blanches. « N'entre pas, Remedios !» fit Amparo Moscote depuis le couloir. « Les gens travaillent !» Mais Aureliano ne lui laissa pas le temps d'écouter. Il leva le petit poisson doré pendu à une chaînette qui lui sortait de la bouche et lui dit « Entre !» Remedios s'approcha et posa à propos du poisson quelques questions auxquelles Aureliano fut bien empêché de répondre à cause d'un asthme soudain. Il aurait voulu rester à jamais auprès de cette peau de lys, de ses yeux d'émeraude, tout près de cette voix qui, pour chaque question qu'elle lui posait, lui disait « Monsieur », avec le même respect qu'à son propre père. Melquiades était dans son coin, attablé à son secrétaire, griffonnant des signes indéchiffrables. Aureliano se prit à le détester. Il ne put rien faire, sinon dire à Remedios qu'il allait lui offrir le petit poisson. Et cette offre effraya tant la fillette qu'elle prit ses jambes à son cou et quitta l'atelier. Cet après-midi-là, Aureliano se départit de la patience avec laquelle il avait attendu en secret l'occasion de la voir. Il abandonna son travail. Il ne cessa de l'appeler, faisant des efforts désespérés de concentration. Mais Remedios ne répondit pas. Il la chercha dans l'atelier de ses sœurs, derrière chaque rideau de la maison, dans le bureau de son père, mais ne put la revoir autrement que par l'image qui obsédait la terrible solitude où il se trouvait. Il passait des heures entières au salon avec Rebecca, à écouter les valses du piano mécanique. Elle-même les écoutait parce que c'était sur ces airs que Pietro Crespi lui avait appris à danser. Aureliano les écoutait simplement parce que n'importe quoi, même la musique, lui rappelait Remedios. La maison baigna dans l'amour. Aureliano l'exprima en poèmes, sans début ni fin. Il les rédigeait sur les parchemins rugueux dont Melquiades lui faisait cadeau, sur les cloisons des bains, sur la peau de ses bras, et partout, transfiguré, apparaissait Remedios. Remedios dans l'atmosphère soporifique de 2 heures de l'après-midi. Remedios dans la respiration feutrée des roses. Remedios dans le secret clepsydre des percebois. Remedios dans la vapeur du bain à l'aube. Remedios de toutes parts, et Remedios à jamais. Rebecca attendait l'amour vers 4 heures de l'après-midi, brodant près de la fenêtre. Elle savait que la mule du courrier ne passait que tous les 15 jours, mais elle ne cessait de l'attendre, persuadée qu'un jour ou l'autre, elle allait arriver par erreur. C'est tout le contraire qui se produisit. Une fois, la mule ne vint pas à la date prévue. Folle de désespoir, Rebecca se leva au milieu de la nuit et s'en alla au jardin manger des poignées de terre avec avidité, à s'en faire mourir, pleurant de douleur et de rage, mastiquant la chair tendre des vers et se brisant les molaires sur les coquilles d'escargots. Elle vomit jusqu'au petit matin. Elle sombra dans un état de prostration fébrile, perdit connaissance, et son cœur s'épancha en divagation sans pudeur. Ursula, scandalisée, força la serrure de la mallette et trouva tout au fond, noué de faveurs couleur de rose, les 16 lettres parfumées, les squelettes de feuilles et de pétales conservés dans de vieux livres et les papillons naturalisés qui, au premier contact, se changèrent en poussière.